Soyez les bienvenus à l'écoute de RFI, Radio France Internationale. Nous sommes en direct de Paris, où il est exactement 3h, 2h de moins, soit 1h en temps universel. Et voici votre journal.
Jérôme Bastion.
Dans l'actualité de ce samedi 12 octobre 2024, le premier test pour le projet de loi de finances du gouvernement Barnier se résume en une appréciation en demi-teinte. Elle est attribuée par l'agence de notation américaine Fitch, qui a manifestement du mal à croire aux promesses de désendettement de Paris. Le Proche-Orient s'enfonce dans la guerre. La Finule a une nouvelle fois été visée par des tirs israéliens ce vendredi, blessant deux casques bleus. Paris a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour obtenir des explications. L'ONU dénonce une violation du droit humanitaire international. Et puis les dirigeants haïtiens et kényans se sont retrouvés à Nairobi pour évoquer les renforts sécuritaires kényans en Haïti qui devraient être déployés dans les prochaines semaines et pour appeler la communauté internationale à accélérer son assistance financière. Un sursis pour Paris. Ce vendredi, l'agence de notation américaine Fitch a maintenu stable la note de la France, certes, mais avec une perspective négative. C'est-à-dire que la note du pays pourrait baisser dans quelques mois. Une nouvelle qui intervient alors que le déficit public s'est envolé cette année et que le nouveau gouvernement vient de présenter, c'était jeudi, son projet de budget 2025. L'agence Fitch met donc le pays sous surveillance avant le vote du budget au Parlement, Justine Fontaine.
Fitch envoie peu ou prou le message suivant. Attention, pour l'instant la note reste la même, double A moins, donc une bonne note, l'équivalent d'un 17 sur 20, mais si les mesures qui sont prises pour contrôler le déficit ne sont pas assez strictes ou pas assez efficaces, eh bien cette note pourrait baisser. L'agence connaît depuis ce jeudi les pistes du gouvernement pour faire 60 milliards d'euros d'économies, supprimer des postes de profs dans l'éducation nationale, augmenter les taxes sur l'électricité ou encore augmenter les impôts des plus riches. Mais Fitch souligne qu'on ne sait pas encore ce qui sera effectivement voté au Parlement et que le déficit public ne devrait pas passer sous la barre des 3% avant 2029, soit 2 ans plus tard que prévu dans ses estimations précédentes. Si sa note était dégradée plus tard, la France devrait payer plus cher pour emprunter sur les marchés financiers et ensuite dépenser plus d'argent aussi pour rembourser sa dette et les intérêts chaque année, alors que c'est déjà le deuxième poste de dépenses publiques après l'éducation.
Justine Fontaine, merci. La guerre au Proche-Orient, de plus en plus hors de contrôle. Pour la deuxième fois en 48 heures, des casques bleus au Liban ont été visés par des tirs israéliens. Jeudi, deux soldats indonésiens de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, avaient déjà été blessés. Et ce vendredi, ce sont deux autres casques bleus sri-lankais qui ont été blessés, dont un gravement. Ce qui a suscité un tollé international, en premier lieu de la part du secrétaire général de l'ONU, car on ne doit pas toucher aux forces des Nations Unies. De nombreux pays sont donc montés au créneau, Italie, Espagne, Royaume-Uni et la France, par la voix d'Emmanuel Macron.
Avec les premiers ministres italiens et espagnols, qui représentent comme la France des contributeurs historiques à la FINUL, je veux dire ici que les 700 soldats français engagés dans cette force sont le signe de notre soutien indéfectible et de notre volonté d'être engagé à la sécurité tout à la fois d'Israël et du Liban. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. Et je remercie les collègues dans Semaine 9 d'avoir eu une parole très claire à nos côtés sur ce sujet.
Le président français Emmanuel Macron, qui était à Chypre donc pour cette réunion du Med 9, réponse de l'ambassadeur israélien qui a été convoqué au ministère français des Affaires étrangères ce vendredi. Il affirme que les forces armées israéliennes ne visent pas délibérément les forces de la FINUL déployées donc au sud du Liban. Au sud du Liban où, justement, ce même vendredi, deux soldats libanais ont été tués et 3 autres blessés dans des combats avec ces forces israéliennes. Le Premier ministre Najib Mikati a appelé à un arrêt immédiat des hostilités et à un cessez-le-feu. Et il a demandé à l'ONU une résolution en ce sens, affirmant que le Hezbollah était d'accord pour cette solution. Dans la soirée, pourtant, 2 drones ont été tirés depuis le territoire libanais vers Israël, l'un ayant été intercepté et l'autre ayant ayant occasionné des dégâts matériels à Herzliya. Alors, pourquoi cette attaque israélienne contre une position de l'armée libanaise et contre les déploiements onusiens ? Élément de réponse avec Paul Khalife, correspondant de RFI à Beyrouth.
Israël souhaite clairement modifier la mission des casques bleus de l'ONU et de l'armée libanaise dans le sud du Liban pour qu'elle passe du statut d'observateur passif à celui de force active, chargée de démanteler l'infrastructure militaire du Hezbollah et d'empêcher la présence de combattants du parti chiite au sud du fleuve Litani. Tant que ces deux forces ne remplissent pas ce rôle, leur présence dans la zone frontalière est inutile et même encombrante aux yeux des Israéliens. À cause de leur déploiement, les milliers de casques bleus et de soldats libanais peuvent ralentir la progression de l'armée israélienne sur le terrain, l'obligeant à faire des détours et des contournements. Et même s'ils ne s'opposent pas par la force à l'avancée des troupes israéliennes, les casques bleus et les soldats libanais restent des témoins indésirables ou gênants. L'armée israélienne a multiplié ces derniers jours les points de contact avec le Hezbollah et a élargi ses zones d'opération en engageant des troupes supplémentaires. Elle ne prend plus la peine de ménager les forces qui peuvent se trouver sur son chemin, surtout si celles-ci n'ont plus aucune utilité dans le cadre des nouvelles réalités qui se dessinent sur le terrain. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
3h06 à Paris, 4h06 à Nairobi, où le Premier ministre intérimaire haïtien Gary Conille s'est entretenu avec le président kényan William Ruto, qui a promis un renforcement du contingent kényan dans la MMAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité déployée sous l'égide de l'ONU et pilotée par le Kenya. Les premiers contingents kényans sont arrivés à Haïti depuis le mois de juin et devraient être bientôt rejoints par de nouvelles recrue, Gaëlle Lalex.
600 policiers sont en train d'achever leur entraînement et rejoindront Haïti le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé ce matin William Ruto. Lors de sa visite à Port-au-Prince le mois dernier, le président kényan évoquait plutôt un déploiement d'ici janvier. Les choses se sont donc accélérées, comme le demandait le premier ministre haïtien, qui a loué l'action bénéfique de la police kényane pour la stabilité de son pays. Le premier ministre assure que la vie reprend doucement son cours à Port-au-Prince. William Ruto, lui, promet la réouverture des écoles prochainement. Mais l'attaque de Ponsondé la semaine dernière, qui a fait 70 morts, rappelle que la stabilité est encore loin d'être acquise. La MMAS manque cruellement de moyens. Sur les 600 millions de dollars de budget annoncés, 135 millions font encore défaut. Les États-Unis sont le principal bailleur de la force avec 380 millions fournis. William Ruto et Gary Conille demandent donc plus d'efforts à la communauté internationale. Avant Nairobi, le premier ministre haïtien était aux Émirats arabes unis. Il assure y avoir sécurisé des engagements sans en donner le détail. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et pour la précision, sachez que selon un dernier bilan, le nombre de victimes de l'attaque de Ponsondé la semaine dernière s'est désormais établi à 109 morts et plus de 40 blessés. Le président kényan, qui a également appelé la communauté internationale à se rallier d'urgence à cette mission, qui fait face à un manque criant de financement et d'équipement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a, lui, prolongé d'un an le mois dernier la mission multinationale policière sans évoquer sa possible transformation en force des Nations Unies comme demandé par les nouvelles autorités haïtiennes. Le prix Nobel de la paix a été attribué à l'ONG japonaise anti-armes nucléaires Nihon Hidankyo. L'ONG met en avant les témoignages de victimes des bombes nucléaires censées œuvrer des bombes nucléaires américaines, lancées en fin de Seconde Guerre mondiale. Des témoignages qui sont censés, bien sûr, œuvrer contre la prolifération de ces armes. Mais la chercheuse spécialiste du Japon, Marianne Perrondoise, est étonnée de la remise de ce prix, alors que le Japon mène en réalité une politique pro-armes nucléaires.
J'ai été un peu surprise de cette mise en avant, tout en comprenant bien la portée du symbole. Bien sûr, le Japon a largement mis en avant sa situation d'État pacifiste. En même temps, quand on analyse les discours des cercles politiques japonais, lorsqu'on regarde la situation du Japon, qui est dans le cadre d'une alliance de sécurité avec les États-Unis, et qui bénéficie de ce qu'on appelle le parapluie nucléaire américain, il y a quand même une certaine ambiguïté dans toutes ces postures. On peut s'interroger sur, au-delà du symbole, sur la réalité de la portée du message pacifiste, en tout cas non nucléaire,